Donc, tourner dans le psaume 127, c'est parce que je fais une suite de la semaine dernière. Un peu encore cette semaine, c'est un peu une prédication, mais à la fois peut-être un témoignage aussi. Fait que je ne sais pas comment on appelle ça, ce genre de message-là, mais il n'y a rien dans la vie comme aussi l'expérience de terrain qu'on a avec Dieu. Quand on était jeune, croyant, on avait la tête remplie de projets, d'espoir. On veut tout changer, on veut tout améliorer. Puis, une chance qu'on pense de même, d'ailleurs, quand on est jeune, parce que sinon, ça peut être un peu désespérant quand on sent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, de savoir, d'avoir envie de faire des choses, c'est béni. Et puis, quand on entre dans la vie avec Dieu, et puis dans l'expérience, puis notamment pastorale, puis d'implantation d'église, puis tous les autres dons et appels que ça appelle, ça, il se passe pas nécessairement ce qu'on a prévu. La plupart de nos beaux projets, nos bonnes idées fonctionnent plus ou moins, mais ça fonctionne en même temps. Et probablement que ce qu'on doit voir, c'est ce que Dieu fait, lui, est probablement beaucoup plus béni que ce que nous autres, on pouvait imaginer ou croire. Puis un des grands défis des ouvriers, c'est d'être capable de cesser de... comment dire ça correctement? C'est se tranquilliser de plus en plus dans tous nos projets, nos idées, nos innovations, et entrer dans un certain repos, ou plutôt de demander à Dieu de nous regarder aller. C'est comme si on entrait dans un repos qui nous rend davantage témoins de ce que Dieu fait au milieu de nous. Puis ça, c'est difficile parce que on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de moyens, on est dans un pays d'abondance, on dispose de moyens financiers, techniques, humains, on a la santé pour le faire, on a tout ce qu'il faut, donc c'est pas évident. En d'autres mots, la prospérité qu'on a pourrait être un avantage, mais elle n'en est pas nécessairement un. Des fois, elle nous désavantage aussi, qu'elle nous rend capables par nous-mêmes de réaliser un tas de choses. Et c'est là que l'expérience de terrain, je pense, la communion avec Dieu nous amène à découvrir de plus en plus que nos idées, on doit les laisser de côté, puis regarder ce que Dieu veut faire. Ça, c'est peut-être plus intéressant, plus attrayant. Je suis toujours instruit par le texte de Matthieu 16, je crois que c'est le verset 18, où Jésus va dire « Je bâtirai mon Église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle, cette Église. » J'ai-tu tombé dessus? Hey, une chance. Il fallait que tu aies fait apparaître le verset 18, puis tu as d'autres choses qui étaient écrites. Ça irait mal. Donc, vous voyez, c'est « Je bâtirai mon Église. » Évidemment, il va la bâtir par des hommes, par ses apôtres d'abord, et par tout ce qu'il va amener. Donc, on fait partie du projet pour Dieu, c'est bien évident, mais en même temps, on doit toujours garder en perspective que c'est son œuvre à lui, et que le séjour des morts et tout ce que ça amène, on dirait que c'est comme si le Seigneur Jésus disait, il y a bien des forces obscures de toutes sortes qui voudront peut-être pas que ça marche. Mais c'est pas ces forces obscures-là qui ont autorité finale. Jésus dit, c'est moi qui décide ce que les portes du séjour des morts vont pouvoir avoir à faire dans ça. Donc, nous, on est stressés pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Comme Marthe. C'est Marthe? Je me mêle toujours entre les deux sœurs. Mais Marie était assise au pied du Seigneur, puis elle écoutait la parole, puis l'autre, elle s'énervait pour beaucoup de choses, en fait, pour peu de choses qui lui paraissait tellement importante. Donc, c'est un petit peu le thème encore d'aujourd'hui. Comment, dans l'expérience de ma vie de pasteur, j'ai dû passer d'être quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'idées et qui croyait en ses idées, et qui croyait que ça fonctionnerait. Et puis, et quand on commence dans l'œuvre, ces idées-là sont c'est des hypothèses, au fond. Tant qu'on les a pas mis en expérience, on sait pas au fond. Et une idée a toujours l'air d'être bonne au départ, toujours l'air de fonctionner. En tout cas, dans nos rêves, ça marche. Puis sur le terrain, c'est là qu'on rencontre des déceptions. Puis j'ai écrit un article que j'ai mis sur mon blog hier dans lequel j'explique un peu ça plus en détail, comment au début des années 90, quand on m'a envoyé au Saguenay, j'étais habité par deux grandes émotions qui étaient celles du conquérant avec une super équipe, on s'en va là-bas, puis les gens au Saguenay ont acheté une bâtisse avant même qu'on arrive. Il y avait une drive terrible. On avait commencé notre étude biblique là-bas depuis un an avant. Mais les gens voulaient tellement qu'on vienne puis qu'on s'ajoute à eux pour commencer une œuvre. Il y avait Pasteur Éric et moi qui étaient là, avec nos épouses, et puis Alain Gonzalez aussi. Benoît et Hélène Beaulé sont venus nous rejoindre deux ans après. Mais écoutez, ces gens-là, là-bas, ils voulaient tellement que ça marche qu'ils se sont mis ensemble puis ils ont déposé un montant financier assez important puis ils ont acheté une bâtisse cash sans qu'on leur demande. Ça commence bien une œuvre. Je veux dire, c'est comme. Écoutez, en dedans d'un an, on l'avait agrandi. Puis ça marchait, là. Puis il y avait des musiciens qui s'ajoutaient. Puis, vous savez, quand on parle là, des premières années qui sont du succès, puis que ça marche, puis que tu doubles à chaque année, puis là, il y a un pasteur à Baltimore, à Lenox, je parlais de ça, puis il m'avait dit en anglais, vous allez manger la région, puis tu sais, c'était comme, wow, je retournais au Saguenay, je dis, bon, allons manger la région. Il y a beaucoup de bleuets là-bas à manger, d'ailleurs. Mais, vous voyez, il y avait quelque chose de très, très encourageant, très édifiant, très stimulant. Donc, il y avait ça qui m'habitait, puis à la fois, j'étais aussi habité par la peur, parce que, seul avec moi-même, je me sentais continuellement dépassé. Je me disais, il me semble que j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Je t'expliquais la semaine passée, je suis pas un évangéliste, moi je suis pas celui qui va aller dans les parcs puis les endroits publics. Je suis plus quelqu'un qui aime enseigner l'écriture, je suis plus pastoral dans mon approche. Donc, c'était comment ça marche. Puis, donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à vivre ça tranquille. Et comment on aide des gens qui vivent des difficultés? Comment on fait ça? Tu sais, j'ai 27 ans, j'ai jamais eu de problème vraiment. Je viens d'une bonne famille, des bons parents. Une sorte de crise qu'on n'a pas vécue chez nous. Des petites affaires normales, mais pas de... Je n'étais pas marié. Des couples mariés viennent t'avoir avec le problème. OK, on va essayer de vous aider. M'acheter des livres. Tim Lair, c'est de comprendre comment ça se vivait ça, ce mariage. Fait que, vous savez, quand tu réalises que tu n'as pas ce qu'il faut, fait que tu as deux choix. Essayer de t'équiper le mieux possible, c'est une bonne idée pour essayer d'être le plus efficace possible. Mais à la fois, tu as beau aller chercher tous ces outils-là, qu'il reste toujours un doute. Et puis, tu finis par rentrer dans la certitude que ça va probablement échouer parce que c'est toi qui es là. Tu sais, et je me souviens quand j'allais aux conventions à Baltimore et même ici avec Pasteur Jeff. Tu sais, Pasteur Jeff, c'est un monument, là, vous savez, de pastoral. C'est un gars qui drivait. Et quand moi, je me comparais à tous ces gens-là, tu sais, ces colosses... je me sentais comme un imposteur. Je me disais, je me souviens une fois aux États-Unis, dans une grosse conférence, on me fait asseoir en avant, tu sais. Avec des sortes de. Tu sais, je suis là, bon, c'est un honneur, puis à la fois, c'est un malaise, tu sais. Je me disais, il me semble que je ne fit pas dans le décor, je ne suis pas comme eux autres, j'ai pas leur drive à eux autres, j'ai pas leur finesse, j'ai pas leur sagesse, j'ai pas leur. Alors, tout ça. Fait que ça a été compliqué. Et la semaine passée, en vous expliquant ça, je concluais sur l'idée qu'un des principes que ça m'a fait découvrir dans la parole, c'était que j'avais pas besoin nécessairement d'être si compétent que ça. J'avais peut-être besoin de répondre par la foi à un appel que Dieu m'adresse. Et la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on mentionnait que Jésus a appelé toutes sortes d'hommes à le suivre, ses apôtres. Et il n'a pas appelé tous les théologiens, les meilleurs d'Israël à l'époque. Il aurait pu appeler à être apôtre des gens qui maîtrisaient complètement toutes les alliances de l'Ancien Testament, puis qui auraient pu décortiquer ça, comprendre le salut, le sang versé à la croix, voir Jésus comme le Messie. Tu sais, il y en a appelé un qui s'appelle Paul, qui avait vraiment ce potentiel-là. Les autres pêchaient du poisson. Un autre, c'est un Matthieu, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Travaille pour le gouvernement? Non, non, mais en termes d'aujourd'hui, là, tu dirais quoi? Un ministère du Revenu, il s'en mettait dans les poches. Tu sais, on les traîne en cours aujourd'hui, ces gens-là. Fait qu'il a dit, je peux pas me prendre un gars de même dans mon équipe. Tu sais, c'est tellement humainement incohérent comment Dieu fait son œuvre que nous, on choisirait pas ce que lui a choisi. D'ailleurs, je pense que c'est Spurgeon qui disait, si Dieu m'avait pas choisi, moi, je l'aurais pas choisi. Fascinant quand même. Et celui que Jésus a engagé pour le comptable de l'équipe, là, c'était qui? Judas, un voleur et un traître. Donc, imaginez-vous être dans un staff meeting avec Jésus en train d'organiser une planification d'équipe. Tu dis, t'es pas fort là-dedans, Jésus, quand même. Nous autres, on a trouvé des meilleurs que ça, là. Donc, il faut être déstructuré de nos façons de faire les choses, puis il faut le suivre, lui, dans sa façon un peu déstructurante de faire les choses. Et c'est ça qui nécessite de marcher par la foi, parce que si c'était raisonnable à notre raison, on répondrait raisonnablement, mais sauf que c'est pas tout à fait raisonnable, l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est bon, je pense, c'est qu'on est déconstruit dans nos façons de concevoir les choses et on apprend à habiter l'inconfort, de pas trop savoir tout à fait comment ça marche, mais de marcher à la suite de celui qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui lui sait où il s'en va, puis il a tout prévu d'avance. Donc, dans le cantique de Salomon, psaume 127, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous, et ainsi de suite. Puis un peu plus loin dans le texte, Salomon parle d'avoir des enfants. Celui qui a beaucoup d'enfants, c'est comme des flèches dans son carquois. Le texte peut diriger vers différentes compréhensions. Le mot bâtir, on peut le prendre au premier degré, bâtir une maison, acheter du bois, puis construire une cabane, une maison en bois. Mais il faut comprendre que Salomon est le fils de David. David voulait bâtir une maison à l'Éternel. Donc, il y a comme un peu ça ici. On bâtit pas une maison à l'Éternel parce qu'on a envie de bâtir une maison à l'Éternel. Il faut que l'Éternel ait voulu bâtir cette maison. Et dans le cas de Salomon, c'était la volonté de Dieu transmise par David, son père, qui était aussi un prophète. Et c'est l'Éternel qui avait dit à David, « Tu ne bâtiras pas toi-même, David, cette maison, parce que tes mains sont entachées de sang. Mais ton fils, lui, la fera. » Donc, c'est bienvenu pour Salomon de dire, « Je pourrais pas me lancer dans le projet de bâtir une maison pour l'Éternel, à moins que l'Éternel n'ait voulu bâtir cette maison. » On peut voir aussi... Le mot bâtir dans le texte hébreu veut aussi dire assurer une suite à la chose. Donc, c'est pas juste construire, c'est peut-être aussi en fonction de la famille. Se bâtir une maison, c'est-à-dire chez les Hébreux, l'idée d'une maison, c'est aussi sa propre descendance. On a un jeune visiteur à l'entrée, y a-t-il quelqu'un qui peut aller voir? Non, ils peuvent entrer s'ils veulent, c'est juste que quelqu'un aille voir. Donc, OK. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, c'est ça, une famille. Tu sais, quand Dieu va parler à David de la maison de David, dans ce sens de tous les rois qui vont le suivre, ses fils, et qui vont mener à Jésus-Christ. Donc, ça peut être aussi bâtir cette maison, assumer ou assurer la suite de la descendance messianique qui passait par David et Salomon et tout ça. Donc, je vous laisse avec ça. en passant, qu'est-ce qui est la meilleure? On va demander à Dr. Vettman, peut-être qu'il va nous le dire. Mais je voulais juste retirer du texte le principe qui veut que on est appelé à rentrer dans les œuvres de Dieu, de ce que Dieu a décidé de faire. Et notre problème à nous, c'est qu'on a décidé de faire beaucoup de choses aussi. Et c'est tout le problème qu'on a. Donc, je vous lis quelques textes là, pour pas perdre mes notes. Dans le monde chrétien d'aujourd'hui, on se construit un appel et on œuvre et une œuvre et on utilise la parole de Dieu pour prouver la raison d'être de cet appel. On fait ça beaucoup. Moi, je me suis vu faire ça souvent. J'ai un projet et je trouve les textes qui approuvent mon projet. Et quand je vais prier sur mon projet, je suis pas trop intéressé de savoir si Dieu est d'accord. Je demande à Dieu de mettre à la disposition de mon projet son autorité, sa puissance. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Peut-être tout seul. Je devrais peut-être me lire le message à moi tout seul. C'est juste à moi que ça veut. Mais vous comprenez l'idée? C'est la bourgeoisie d'aujourd'hui qui nous permet de pas être obligé de s'attendre à Dieu. Puis quand on voyage moindrement un peu, puis notamment en Haïti, puis on va en Afrique, là, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on rencontre des chrétiens qui les ont pas, ces moyens-là. Ils peuvent pas rêver comme on rêve. Ils sont souvent beaucoup plus proches de temps passé dans la présence de Dieu à chercher sa face, parce que pour eux, si le projet arrive, il va vraiment falloir que Dieu intervienne. Mais nous autres, c'est pas obligé. On est capable de faire arriver beaucoup de choses. Donc, nous créons des ministères pour nos vies, nos églises, et nous prions pour que Dieu bénisse et les maintienne en vie. Et si Dieu le fait pas, ben, on boude, on n'est pas content. C'est pourquoi Dieu n'a pas béni. Ben, il a peut-être jamais voulu bâtir cette maison que c'est toi qui as voulu ça. Donc, on est dans le luxe de pouvoir se errer ici. Là. Nous devrions plutôt d'abord prier pour être certains d'avoir une direction de Dieu dans un projet, pour ensuite regarder comment Dieu le fait arriver. Mais ça, c'est dur. Dire à Dieu, écoute, j'ai une intuition, j'ai un projet, j'ai une idée. Comment savoir si c'est sa volonté? Bien, la meilleure façon de savoir si c'est sa volonté, c'est de pas chercher à le faire arriver. Et donc, si Dieu le fait arriver, ouvre toutes les portes de façon surprenante, et qu'on n'a pas eu besoin de tordre un bras à personne, c'est déjà une belle réponse, non? Donc, je me suis rendu compte d'une chose concernant la volonté de Dieu et la prière, pourquoi les deux sont si importants ensemble. J'avais lu un jour une déclaration qui disait que quand on prie, on n'est pas capable de détester quelqu'un quand on prie pour lui. Vous avez probablement déjà réalisé ça. Dans la présence de Dieu, quand on intercède pour des gens, même si on a un différend avec eux, il y a comme quelque chose dans la prière qui fait que on est obligé de mesurer les choses, mesurer les mots, les attitudes qu'on a. On est obligé de rabaisser nos intensités parce qu'on est conscient qu'il y a Dieu qui entend, il y a Dieu qui écoute. Et moindrement, si on est attentif, souvent la présence de Dieu nous fait changer d'avis, nous fait ajuster des choses. C'est la même chose pour des projets qu'on aurait. Aller exposer un projet à Dieu, c'est un peu comme exposer un bloc de glace au soleil. Ça se peut qu'il fonde, puis qu'il ne reste plus rien à la fin. Et ça, c'est un beau risque avec Dieu. Être capable de renoncer à un projet parce que Dieu l'aura finalement fait fondre. On est très, très tordu parce que moi, j'ai mémoire d'avoir déjà eu des projets sur lesquels j'ai volontairement pensé que c'était pas une bonne idée d'aller prier là-dessus. La peur que Dieu me dise non. Et on est capable d'être assez fou pour tellement vouloir qu'un projet arrive à notre goût, d'être capable d'éviter Dieu. Je sais que c'est complètement étrange, mais c'est ça. Qui connaît Paul Onguichaud, aussi appelé David Onguichaud, le pasteur de Séoul, en Corée du Sud? En 1958, cet homme-là a commencé une œuvre. Théologiquement, on a des différences énormes avec lui, mais je veux juste montrer quand même un principe intéressant avec M. Onguichaud. Lui croyait beaucoup à la prière et au groupe maison. Fait que lui a développé une église. En quelques années, il était rendu 3 000, 4 000 à Séoul, en Asie. Au départ, c'était pas évident d'amener l'Évangile là-bas. Et l'Évangile était entré là à travers, il y a eu des guerres. Faut comprendre que les années 50, les guerres de Corée, les tensions qu'il y avait en Asie du Sud-Est aussi, ça brassait beaucoup. Les Américains étaient là. Puis les Américains, ils allaient faire la guerre, ils amenaient l'Évangile aussi avec eux. Puis souvent, ça laissait des traces. Donc, il s'est développé un christianisme extrêmement puissant en Corée du Sud, encore aujourd'hui. Si vous avez écouté les Olympiques de Séoul il y a quelques années, il y avait tellement de gens avec des versets dans la foule, dans le stade olympique de Séoul. C'était fascinant. C'est probablement une des villes où il y a le plus de chrétiens au kilomètre carré, c'est à Séoul, parce que son église, il y a quelques années, comptait tout près d'un million de membres. Un million. Tu sais, c'est comme la moitié de la ville de Montréal, de Lille, vient à ton église le dimanche. Ils ont acheté une montagne pour aller prier, prier dehors. Tellement que c'est énorme. J'ai un de mes amis qui est allé passer une semaine dans ce coin-là, puis quand tu arrives à l'église, c'est énorme. Fait que les gens qui t'accueillent parlent toutes sortes de langues, parce qu'il y a des gens du monde entier qui vont visiter ça. Fait que lui, il dit, j'ai commencé à parler français, puis il dit, en 30 secondes après, il y a quelqu'un qui est venu me voir parler français. Ils sont parler français, septième étage. Après, l'ascenseur monte jusqu'en haut, puis rendu en haut, on s'assoit, puis c'est juste des francophones dans une énorme salle. Puis plein de langues de partout, là, il dit, wow, c'est incroyable comment est-ce qu'ils sont organisés. Et lui a bâti son ministère sur les groupes maison. C'est intéressant. On veut faire des expériences, d'ailleurs, groupes maison. On veut s'inspirer de M. Onguichaud. Mais en même temps, ce que je veux surtout dire, c'est que dans les années 80, c'était très, très, très populaire. Le monde évangélique là était très attentif de ce qui se passait à Séoul. Il sortait des ouvrages là-dessus et il y avait cette idée que ça, c'était le moyen de convertir la planète. C'est-à-dire qu'on multiplie les groupes maisons, puis d'un groupe maison, on fait naître un ou deux autres. Et puis, tout ça parce que à Séoul, ça a fonctionné avec un succès surprenant. Je me souviens qu'ici, à Montréal, à l'époque, il y a plein de pasteurs qui disaient « on va faire ça ». Et ici, ça a comme pas marché. C'est-à-dire que le concept d'avoir des groupes maisons dans des églises, c'est très, très bon pour s'édifier, s'encourager, la communion fraternelle. Mais faire des groupes maisons à la façon de Onguichaud et de multiplier une église de 3 000 en 1963 ou 64 et amener ça à près de 2 millions 40 ans plus tard, il n'y a que M. Onguichaud qui a réussi à faire ça. Donc, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que quand on n'est pas en train d'observer ce que Dieu est en train de faire, on va être en train d'observer ce que les autres font. Puis on va toujours facilement penser que le truc qui marche ailleurs, c'est le truc qui marche en ce moment. Et on va essayer de faire ça. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'expériences d'églises urbaines en imitation de M. Timothy Keller aux États-Unis, qui est un excellent théologien, un enseignant qui publie des super ouvrages. Et à la fois, penser qu'on pouvait refaire l'œuvre de M. Keller ici. Mais Keller, c'est comme Onguichaud. Si tu n'es pas Onguichaud, ça ne marchera pas. Puis si tu n'es pas Timothy Keller, ça ne marchera pas. Tu peux t'inspirer du gars, de ses instructions, de ses enseignements. Mais j'ai toujours l'impression que ce qui manque à notre foi, c'est une attitude, c'est la paresse de ne pas vouloir aller chercher qu'est-ce que Dieu, pour nous, a préparé d'avance. Qu'est-ce que Dieu a vu pour nous? Comment il veut nous faire grandir avec lui? Donc, c'est pourquoi j'entrerai dans cette partie du message sur cette idée que la communion avec Dieu est importante. À l'automne, on voudrait développer des groupes de prière. C'est une des idées que j'ai depuis longtemps, mais en particulier en ce moment, c'est de développer une église qui prie, qui perd du temps à prier, beaucoup. Chercher une direction de Dieu, mais pas seulement de façon individuelle, mais de façon communautaire. La communion fraternelle de gens dans une église qui prie pour parce qu'on est dans des temps difficiles. Et en même temps, ces temps difficiles sont bons. Sont bons parce que l'Occident sort d'un rêve où pendant des millénaires, des siècles en tout cas, l'Occident essentiellement était chrétien. Il y a quelques décennies encore, juste ici au Québec, tout le monde allait à l'église le dimanche. Le christianisme a influencé les gens qui dirigent nos États. Ça a fait en sorte que les lois, sans être chrétiennes, avaient une inspiration, une intuition biblique dedans. Le code pénal avait ça. Les lois, l'organisation sociale, il y avait du christianisme là-dedans. Et c'est ce que les nouveaux élus depuis 20-25 ans ont tenté encore aujourd'hui, sont en train de vider ce contenu. On redevient des nations complètement païennes. Complètement. On peut s'insurger contre ça autant qu'on veut. Mais le combat, c'est pas d'empêcher que ça arrive. C'est de se tenir avec le Dieu qui est souverain, qui, lui, a un plan pour nous à travers ce temps-là. Donc, comment il veut nous faire marcher avec lui dans un temps comme celui-là? C'est ça qui est important de trouver. Je vais essayer de vous expliquer l'impossibilité de la tâche et pourquoi c'est probablement la plus grande richesse qu'on a, c'est que c'est impossible. Ça a l'air d'un paradoxe étrange. Si c'était juste pour nous un peu possible, ça serait déjà trop pesant. Ça voudrait dire qu'il faudrait le faire arriver. Tu sais, si Dieu disait « je vais faire un bout, faites l'autre bout », Dieu a disposé les choses de telle sorte que ça ne peut pas se faire sans lui. Et comme si c'était passé, il a rendu ça impossible, j'allais dire imbuvable. Si vous étiez pour parler de l'œuvre de Christ il y a un siècle ou deux siècles, c'était socialement accepté de tous. On ne remettait pas en question. Et il y a à peu près trois semaines, un mois, j'ai été éveillé par un débat dans lequel je me suis mêlé sur Facebook. Et puis, c'était intéressant parce que il y a un chrétien qui poste un petit article, 5-6 phrases, sur Jésus-Christ, puis c'est quelque chose de bien classique, rien de compliqué. Et là, les gens qui répondent, ça a l'air d'être de ses amis qui sont des athées. Et là, les gens commencent à rire de l'article en disant, « Ah oui, Jésus, oui, tu sais, c'est ce personnage là qui paraît qu'il est né d'une vierge. Ben oui, tu sais, ah oui, c'est celui que vous le vénérez, lui. Ah oui, c'est ça. Il a marché sur les eaux. » Tu sais, des gens qui se mettent à se moquer. Et là, il s'en ajoute. Puis là, il y a des chrétiens qui embarquent dans le débat pour défendre. Puis, tu sais, c'était comme, tu sais, genre, quand tu sais pas trop défendre Jésus, tu dis, « Hey, touche pas à mon Jésus! » Tu sais, les gens s'énervent un peu comme ça. Puis là, moi, je suivais ça. Puis à un moment donné, il y a une lumière qui s'est allumée. De temps en temps, ça m'arrive. film, ma femme, elle s'en rend compte, quand ça allume des fois, elle me le dit. En tout cas, bref, elle nous écoute. Je lisais le discours d'un des athées de la gang qui disait, tu sais, c'est ridicule le christianisme, regardez. Puis là, il montrait tout le ridicule de la chose, un gars né d'une vierge, puis il a marché ses os, il serait ressuscité. Tu sais, puis il dit, c'est quoi la différence entre ça et un truc de grec? Tu sais, les philosophies grecques étranges, puis les trucs égyptiens étranges. Il dit, c'est toute la même affaire. Et moi, j'ai écrit un petit texte en disant... aux chrétiens, j'ai dit, le gars en question qui est en train de dire ça, il a tout à fait raison. Et là, c'est curieux, tu es d'accord avec lui? Ben, j'ai dit, je suis d'accord avec lui que quand tu n'appartiens pas à Christ, c'est ça. Donc, à moins que Dieu se révèle dans ta vie, ben, dans un monde païen, Jésus-Christ, il ne vaut pas plus que Iris et toutes les autres, là. Bizarroïde personnage de l'histoire, parce que on n'est plus dans une culture chrétienne, et aujourd'hui, c'est pas juste par le raisonnement et les arguments qu'on va convaincre les gens du dehors. Pour eux, ça ressemble à n'importe quelle autre histoire historiquement pittoresque. Donc, si vous vouliez vous partir une entreprise, il y en a qui ont fait ça dans leur vie, partir des entreprises, et que vous voulez que ça marche, il vous faut d'abord un excellent produit. Il faut que votre produit réponde à un besoin. Donc, vous allez faire une étude de marché. Est-ce que les gens ont besoin de mon produit? Et si vous êtes très, très fort, vous allez réussir à produire le besoin. Tu sais, les gens n'avaient pas besoin, mais après vous avoir entendu, vous êtes tellement fort que vous allez leur avoir vendu l'idée qu'ils en ont besoin. Créer un besoin. Ah, c'est étudié là-dedans, toi. Hein? Donc, combien de bébelles qu'on n'a pas besoin, mais qu'on s'est fait dire qu'on avait besoin, finalement, on est allé l'acheter. Bon. Donc, il faut ça. Hein? Il vous faut un vendeur, un personnage, un représentant médiatiquement charismatique, connu, pour qu'on écoute votre message. Il faut un message populaire. Il faut un projet attractif. Vous allez engager des vendeurs, là, après ça, vous allez engager les meilleurs, donc vous allez trouver du monde capable. Tu sais, comme chef d'entreprise, là, vous, là, si c'était votre produit, vous allez rester présent, là, tu sais, vous allez être là avec les gars, puis vous allez les pomper, puis... Écoutez, si vous partez pas une entreprise comme ça, ça peut pas marcher, là, c'est impossible. C'est-tu vrai? Tu sais, un produit pas bon, personne en a besoin, un inventeur... pas là, des mauvais vendeurs, est-ce que ça peut marcher, ça? Donc, voyons un peu si l'Évangile passe le test d'un bon produit. Donc, imaginez que moi, imaginez être assis dans un local où vous avez été invité là, un nouveau produit va être mis sur le marché et vous êtes potentiellement quelqu'un qui serait engagé comme représentant vendeur et que là, quelqu'un se présente devant vous pour vous expliquer le produit et l'inventeur et la mise en marché. Puis tu sais, il veut que vous embarquiez avec lui. Tu sais, imaginez la situation suivante. Donc il se présente à vous puis il vous dit bon, le produit que vous allez vendre pour nous a été inventé par quelqu'un. Puis là, quelqu'un dans la salle dit « Oui, c'était qui? » Ben, c'est quelqu'un qui se prenait pour Dieu. On l'a condamné à mort. Là, vous, comme, vous dites « OK, j'ai-tu le goût, moi, de représenter un gars de même? » C'est quand même un peu bizarre. Et là, le présentateur vous dit « Oui, mais c'est pas grave. » Pas grave. Il est ressuscité. Donc, OK, il est ressuscité. Good. Ça s'améliore, ta présentation. Hein, tu étais à côté d'un gars, tu dis, hey, wow, il est ressuscité. D'accord, on s'en va-tu? Fait que le gars va dire, non, on va rester un peu, on va continuer à l'écouter. Peut-être que c'est... Bon, Son produit s'adresse aux familles, aux hommes, aux femmes. Et puis, et là, vous verrez même, c'était lui, le gars, là, qui est ressuscité, là, puis ton... Étais-tu marié, lui? Il dit, non, lui, il n'est jamais marié, pas eu d'enfant, il ne connaît pas ça. Ah, tu dis, OK. C'est... Fait que lui, il a inventé un produit pour la famille, mais il n'y a pas eu de famille. Non. OK, d'accord. Après ça, vous direz, puis parle-nous donc de sa famille. C'était qui? C'est ses parents, à lui? Ben, son père, on le connaît pas trop. C'était un gars qui travaillait dans la construction. Puis sa mère, ben, elle était vierge. Elle l'a eu vierge, en fait. Et là, vous dites, OK, c'est intéressant. En fait, c'est pas intéressant, mais c'est bizarre. Et là, vous comprenez l'histoire, tu sais. Et là, le présentateur vous dirait, parmi ces vendeurs, tu sais, je vous disais tout à l'heure, il a pris pour ses représentants des gars qui ne connaissent rien dans ça. C'était des anciens marins pêcheurs de poissons. Il a engagé un fraudeur du gouvernement. Puis le comptable de la compagnie, c'est un voleur. C'est OK, on s'améliore. Ça va vraiment bien, cette entreprise-là. J'ai-tu envie de représenter ça? Puis là, vous dites, OK, c'est quoi la clientèle visée par votre produit? Des gens faibles, vils et méprisables. Un Corinthien. Tu sais, quand Paul va dire qui Dieu appelle, c'est pas les plus... fait que c'est pas la clientèle là, c'est eux autres. Et là, quand vous commencez à regarder le prospectus de l'entreprise, vous apprenez que le produit a pour but de vous dire que vous êtes des pourris. Pas vendeur, ça non plus. Le message, il va falloir améliorer le message, c'est sûr. Continuant sa présentation, le présentateur vous disait, la clientèle grecque de ce produit considère que ce produit est une pure folie. Il y a une clientèle juive aussi qui a dit que c'est un produit franchement scandaleux. C'est un produit que les gens considèrent absolument pas d'en avoir besoin. Fait que quand on essaie de leur vendre ce produit, ils vont dire que c'est pas pour eux. Pas besoin de ça, ce produit-là. Et là, revenant au fondateur, on disait, on peut-tu rencontrer le fondateur? Il dit non. On ne l'a nous-mêmes jamais vu. Mais il y en a qui l'ont déjà vu, il paraît, il y a 2000 ans. Il y en a même qui pensent qu'il n'existe pas, le fondateur en question. Et on pourrait continuer à ajouter des détails comme ça que l'Écriture nous fournit, juste paraphraser sur l'idée d'un produit humain, comment ça serait impensable une affaire comme ça? Tu sais, comment on pourrait ajouter aussi que le présentateur pourrait dire, oui, puis il y a de la compétition aussi. Il y a des démons qui vont faire en sorte que ça ne marche pas. La compétition est grande parce qu'il y a plein d'autres produits semblables qui, à la vue de l'homme, répondent beaucoup plus aux besoins que celui-là. Donc, dites-moi, comment on pourrait réussir? Parce qu'au fond, ce produit-là, pour nous, c'est l'Évangile. Donc, Dieu a réuni des conditions perdantes. Puis moi, ça m'a affecté longtemps, ce problème-là, parce que je me disais, Seigneur, si t'avais viré ça un peu plus positif, plus vendable, plus présentable... Quand on présentait ce produit-là, quand on évangélisait il y a 25-30 ans au Québec, ceux qui se souviennent, on parlait de Jésus à des gens qui avaient des repères catholiques. Donc, il y avait une suite, le produit était connu. Il était respecté, il était... Mais là, on doit annoncer l'Évangile à une clientèle qui n'en a rien à faire de ce produit-là, qui n'en veut pas. On fait quoi? On fait quoi? On se réjouit. Parce qu'on est peut-être dans une perspective qui va nous permettre de voir Dieu amener des gens à lui. Donc, les conditions perdantes sont juste en apparence perdantes, mais l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. La beauté de ce produit-là, c'est que Dieu nous appelle à aller annoncer l'Évangile, à aller parler d'un produit qui a l'air complètement étrange, et c'est clair que quand on présente ce produit-là, il y a des yeux qui s'ouvrent, il y a des aveugles qui retrouvent la vue, il y a des boiteux qui se mettent à marcher. Les langues se délient. Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Ce produit-là est le produit le plus puissant que j'ai jamais eu sur la terre. Il sauve des vies, il sauve des familles, il guérit des cœurs, il guérit des relations. Il fait ce que rien d'autre peut faire. Mais à la vue, il n'y a aucune condition gagnante. Donc, si je peux dire que dans mon expérience pastorale, ça a été un petit peu la déconstruction pour moi à travers toutes ces années de pensée qu'on pouvait y arriver, ça m'a amené tranquillement à me rendre compte que c'était impossible que ça fonctionne par nos propres moyens, mais c'est de découvrir que la beauté de la chose, c'est que ça va fonctionner. Parce que Dieu a décidé que ça fonctionne et lui va bâtir son Église. Les portes de l'enfer empêcheront jamais le phénomène de se produire de toute façon. C'est son œuvre à lui. Et on est appelé, on est utilisé par lui dans ça complètement. Et si on peut juste mettre un frein à nos multiples intentions, à nos multiples projets, entendre de lui de mieux en mieux, de comprendre à quoi il nous appelle. Il a préparé d'avance des œuvres pour nous. Éphésiens 2.10, il a préparé des œuvres d'avance. Il nous a déjà pavé la voie d'avance. Restons calmes, entendons, croyons, avançons. Dernier verset, Thessaloniciens 2.13. Je ne pense pas l'avoir lu la semaine passée, je ne me souviens pas, mais je voulais juste revenir sur ce texte-là, très important. L'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Voyez comment Paul comprenait la puissance de l'Évangile. Paul est en action de grâce ici, devant Dieu, parce qu'il a fait entendre aux Thessaloniciens la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire qui est étrange. Je vous disais la semaine passée que la parole de Dieu est un peu comme on voyait dans Ésaïe, chapitre 55, c'est comme de la neige, c'est comme de l'eau qui tombe, qui nourrit le sol, qui fait germer des plantes, qui donne du pain, qui produit. C'est cette parole donnée, nous dit Ésaïe, l'eau est comme une parole donnée par Dieu et elle va avoir son effet sur les gens. Elle ne retournera pas à l'Éternel sans avoir fait ce que Dieu avait décrété, décidé qu'elle allait faire. C'est merveilleux ça pour nous autres. De comprendre cette idée-là. C'est qu'on est appelé à le dire, mais on n'est pas appelé à le faire arriver. On a la partie la plus reposante, mais on est appelé à le dire, on n'est pas appelé à se taire en même temps. Donc, Paul va dire, Paul a l'air d'être extrêmement béni parce qu'il est en train de dire, oui, on est allé vous faire entendre une parole de Dieu, puis dis-moi, je rends vraiment grâce parce que quand on vous a fait entendre cette parole de Dieu, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Comme si Paul disait, cette parole donnée de Dieu n'est pas une parole d'homme. Cette parole est puissante, extrêmement puissante. Un peu plus loin, dans d'autres de ses lettres, Paul dit, elle peut renverser des forteresses, cette parole. Elle a changé le cours de l'histoire, cette parole. Elle a transformé des régions, elle a transformé des nations. On ne réalise pas à quel point la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement... J'utilise puissant, pas au sens charismatique du terme, mais puissant au sens d'autorité. Le pouvoir que cette parole-là a, c'est pourquoi on doit la connaître, la comprendre, la chérir, la méditer, la chercher. On ne peut pas négliger l'Écriture. Tout est là. Donc l'apôtre finit en disant, ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, et j'aime, c'est surtout le dernier bout de phrase que je trouve extraordinaire, qui agit en vous qui croyez. Et le mot agir, le verbe agir ici, qui croyez, ça peut être entendu de deux façons. Ça peut être à dire, parce que vous y avez cru, parce que vous y avez ajouté foi, elle est devenue agissante. Et j'ai vu d'autres commentateurs qui vont plutôt traduire le texte en disant « Elle agit en vous, les croyants. » Au sens, si vous êtes un racheté, un élu, vous appartenez à Dieu, cette parole ne peut pas faire autrement que d'être agissante. Elle va l'être parce qu'elle a été faite pour vous, elle vous a été donnée à vous. Comme je disais la semaine dernière, c'est comme une eau qui descend et en vous, elle va faire pousser la semence des appels, des dons, des charismes que Dieu vous a donnés. Donc, plutôt que de vous chercher quelque chose à faire absolument, et on peut littéralement des fois passer à côté de notre appel, pas parce que Dieu n'en avait pas pour nous, parce qu'on s'est branché à vouloir absolument réussir un autre truc, alors que des fois, on devrait prendre un recul, dire, mais quel est ton appel, Seigneur? Et on n'a pas besoin de se forcer les manèges pour que ça arrive. On a besoin juste de dire, écoute, Seigneur, je me mets dans une cure, je veux entendre, je veux méditer, je veux réfléchir, je veux voir cette parole, comment c'est elle qui va faire germer. Les choses vont devenir évidentes. Parce que cette parole de Dieu est agissante en vous qui croyez. Amen. Est-ce qu'on a fait l'offrande? On a fait l'offrande. Tu veux qu'on fasse une deuxième offrande? On va juste prier. Sylvain va nous faire un dernier cantique avant de quitter. Alors, Seigneur, on te dit merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Et Seigneur, en ces moments d'été où on tombe en congé, en vacances, on a plus de temps de libre. Seigneur, attire-nous à ta parole afin que dans ces moments libres, on prenne peut-être plus de temps dans ta parole, plus de temps à lire, à réfléchir, à méditer, à voir ce qu'elle veut faire pousser en nous, Seigneur. Merci, Père, pour ton instruction. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.
Amen. Merci, Pasteur.